Nous allons commencer par la chronique Que libérer d'autres que du logiciel proposée par nos amis d'Antanac. Donc j'ai le plaisir de recevoir Isabelle avec moi en studio. Isabelle, je crois que tu voulais nous parler des actualités d'Antanac aujourd'hui.
Alors pas des actualités d'Antanac justement. En septembre, on avait fait ça. J'avais fait pour la rentrée les actualités d'Antanac même. Et là, je voulais plutôt aborder des sujets qui ne sont pas ceux directement d'Antanac, mais qui concernent Antanac, de fait, peu ou prou, mais qui sont des éléments d'actualité plus générale, plus globale. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous en avez parlé mardi dernier. Désolé si c'est le cas, parce que je n'ai pas écouté l'émission de la semaine dernière. Il faut pas.
Tu seras blâmé.
Oui, je suis blâmé, voilà, c'est fait. Mais en tout cas, nous, on se réjouit, même si c'est une toute petite victoire, de ce que mardi dernier, le Parlement européen a donné son feu vert pour la mise en place du chargeur unique pour les appareils électriques, électroniques, portables.
On n'en avait pas parlé, donc tu vois...
Ouf, ça va alors. Bon, c'est pas une grosse victoire, c'est pas un truc extraordinaire, mais quand même, qui ne s'est pas un jour trouvé avec une problématique de « Ah tiens, j'ai un chargeur, qu'est-ce que j'en fais ?» ou bien « Je change de téléphone, d'ordinateur, etc. et c'est pas le bon chargeur. » Et alors là, je parle des individus, quand c'est comme ça, mais mettez-vous à la place 2 minutes des collectifs qui, comme nous, sont donc des acteurs du reconditionnement. Et donc nous, on manipule toute une série de chargeurs dans tous les sens. Des chargeurs qui nous arrivent parce qu'ils nous sont donnés en vrac dans des sacs, ou des chargeurs dont on a besoin pour les ordinateurs portables que nous reconditionnons. Alors, oui, une précision, pour le moment, ce que le Parlement, la Commission a décidé, a validé, aux grandes dames de Apple, hein, puisqu'on se rappelle, ça a commencé cette affaire-là en 2009. En 2009, ils ont commencé à réfléchir à cette question, à négocier qu'est-ce qui serait possible, etc., avec les sociétés productrices de matériel. Et en fait, c'est Apple qui, évidemment, ne voulait pas. Et a fait traîner jusqu'à ce jour, enfin jusqu'à donc mardi dernier. Ça va concerner d'abord, évidemment pas tout de suite les ordinateurs portables, ça va concerner d'abord les smartphones, les appareils photo numériques par exemple, les écouteurs sans fil, les consoles de jeux vidéo portables, voilà, les GPS, les enceintes, les claviers, les souris, enfin bref, tout le matériel, et ça en 2024. Ça veut dire que tout ce qui va sortir dorénavant des unis, des fabricants de la production, ça sera à partir de 2024 une obligation qu'il y ait un port USB-C. En 2026, ça sera vrai pour les ordinateurs également. Ça va pas changer la face du monde tout de suite, mais ça fait partie des choses dont on se réjouit qui sont censés quand même faciliter un petit peu la vie de tout le monde et qui prennent en considération les consommateurs, consommatrices que nous sommes, même parfois malgré nous, et qui nous permettent donc d'imaginer qu'un jour, ça sera plus facile que d'avoir des caisses à non plus finir. Parce que vous savez, dans les ordinateurs, on a à la fois la problématique du voltage. Parce que sur les portables, ça commence à 18, ça termine à 20 à peu près, qu'on smile. On a la problématique à côté de l'ampérage, en plus du voltage, pour faire les watts. Vous vous souvenez? Vous avez des souvenirs de ça? Du collège, lycée, tout ça, non?
Quelque peu lointain.
Moi, si, allez, volts multipliés par ampères égale watts. Hein, voilà, on se rappelle. Bon, bref, c'est très compliqué pour nous autres. Et en plus, il y a évidemment la question de cet embout, donc, qui est une fois carré, rond, avec un petit point au milieu, pas de petit point au milieu, une petite... Bref, toutes les choses sont possibles. Voilà, donc on est content. Et puis, on est content de se réjouir de temps en temps par des sujets. Notre deuxième sujet de réjouissance, c'était que donc, c'est cette année, ça vous en avez peut-être déjà parlé, les 15 ans de la quadrature du net.
Eh ben, on l'aura pas, je sais plus si on l'aura souhaité. Bon, on en profite. Ouais. Bravo à la quadrature du net.
Et voilà.
Et bon 15 ans à eux, oui.
Exactement. Exactement. Parce que quand même, c'est pas rien. Bon, je sais pas s'il faut représenter encore. J'imagine que les auditeuristes connaissent un peu, en tout cas les libristes, tous ceux qui sont
En deux mots,
habitués.
Comment tu les définirais, la quadrature du net? C'est une association qui défend les libertés informatiques.
Sur Internet, voilà.
Sur Internet.
Et qui ont mené à la fois des combats de grande portée et en même temps des choses hyper pointues, précises, de sensibilisation, j'allais dire, d'un grand public, même si c'est pas obligatoirement toujours un très très grand public. Mais voilà, leur thématique actuelle. Actuellement, en plus de la liberté sur Internet, c'est tout ce qui est Technopolis, ils ont appelé ça.
Tout à fait. Ouais.
C'est tout le combat contre les caméras, la surveillance, le contrôle, et en fait toutes les opérations de contrôle, en fait, d'un côté sur Internet, d'autre côté là dans la rue, dans nos villes, toutes ces caméras qui sont installées un peu partout et qui nous suivent et nous pistent.
On partagera le lien pour les personnes qui s'intéressent à cette campagne s'ils veulent creuser cette question. Oui.
Ouais, tout à fait. Je la trouve très intéressante. Antanac, on la trouve très intéressante. Et donc Mathieu Labonde Monde et Benoît Piedalu, qui sont les co-auteurs de la première biographie, c'est rigolo, de la quadrature du net. Donc ils ont appelé ça Internet et Liberté, au pluriel bien entendu. Je vous lis l'extrait de présentation. Partout où le numérique est venu changer nos vies, le respect de nos libertés fondamentales est un combat. Pendant que Facebook, Google et compagnie se targuent de protéger nos données tout en les exploitant pour booster la publicité ciblée, les lois sécuritaires s'enchaînent et les expérimentations illégales aussi. Des micros dans les rues, des tests de reconnaissance faciale dans les stades ou dans les transports, des drones aux mains des policiers, etc. La dérive vient bien des pouvoirs publics autant que des entreprises. Voilà, donc les membres de la quadrature du net sont ceux qui, comme vous, comme à la prise ici, sont vigilants sur toutes les questions liées à la liberté, aux libertés au pluriel. Ils ont été actifs depuis toujours, ils et elles ont été actifs depuis toujours sur les thématiques de droit d'auteur, de censure, etc. Et elles veillent beaucoup plus largement à la protection de notre vie privée. Voilà, donc il y a des campagnes d'information que nous trouvons suffisamment importantes et présentes pour qu'on en parle. Voilà, et puis un dernier petit point, une dernière actualité, on va dire, c'est que samedi dernier, le 8 octobre, se sont tenus, vous le savez, plusieurs rassemblements pour demander que Paris donne l'asile politique à Julian Assange, en tout cas qu'il ne soit pas extradé vers les États-Unis. Julian Assange, les auditeurs doivent s'en souvenir aussi. Ça fait 10 ans que maintenant l'informaticien et cybermilitant australien, qui était fondateur de l'entreprise de Wikileaks, a été... Il vit sous la menace maintenant depuis 10 ans et il est menacé de 175 ans de prison s'il retourne aux États-Unis. Alors, c'était important qu'il y ait pas mal de monde un peu partout en France et dans le monde ailleurs qui se ressoulève à nouveau pour demander quelque chose. Parce que là, il est dans une prison de haute sécurité au Royaume-Uni et sa santé est déclinante. Il a 51 ans, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y avait une trentaine d'associations et de collectifs sur Paris, qui était partie prenante de ces appels et rassemblements, dont deux qu'on aime bien, Halt au contrôle numérique, qui est à l'initiative, peut-être certaines le connaissent, d'un petit guide d'autodéfense numérique, qui était écrit en 2017, mais qui est toujours d'actualité, en effet sur la façon dont on peut se protéger sur Internet, notamment. Et puis, une asso qui s'appelle le Mouton numérique, qui organisent des choses publiques, dont vous avez, je crois, déjà parlé ici. Ils organisent des choses régulièrement, y compris là dans le 18e. Et samedi prochain, le 15 octobre, il y aura un atelier conférence dans le 18e, organisé par le Mouton numérique, qui s'appelle Immersion dans la matérialité du numérique. Donc voilà, nous, ça nous concerne, puisque des gens se mettent à parler un peu plus de la question matérielle, et pas simplement de faire comme si tout ça dans le numérique et l'informatique, c'était que du virtuel. Voilà, c'était ma petite contribution aux annonces. Merci à tous et toutes de votre écoute, et puis à bientôt pour de prochaines aventures.
Merci Isabelle, mais c'est bien aussi d'ouvrir un peu nos horizons, de voir ce que font nos camarades par ailleurs pour faire avancer notre cause commune. D'ailleurs, vous tiens, oui,
joli,
commune, oui.
Joli.
Oui, mama. Merci, je te dis au mois prochain, Isabelle.
Absolument.
Que ça soit une bonne après-midi.
Au revoir.